Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes dimanche soir, c'est l'heure du Grand Fauve et ce soir, nous allons au stade. Let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là, l'œil du tigre mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Historiquement, stade, ça vient d'une racine indo-européenne sta, qui veut dire debout. Or, depuis quelques années, pour des questions de sécurité, on interdit aujourd'hui, évidemment, à la foule d'être debout. Elle est obligatoirement assise. En fait, chaque individu a sa place, d'une certaine façon.
Debout ou assis dans un stade, là n'est plus la question. Tribunes désertes, travées muettes, supporters fantômes. Les stades du monde entier ont été vidés de leurs fidèles par la pandémie mondiale. Curieux spectacle que ces mastodontes réduits au silence. Sentiment étrange devant ces arènes dépeuplées par la crise sanitaire. Retour ce soir sur l'histoire du stade, lieu de festivité et de sociabilité. Théâtre mystérieux où s'écrivent des mythes populaires. Au programme ce soir, donc, trois invités au micro d'Inter pour se pencher sur ces temples du sport. Tout d'abord, il est journaliste à l'Équipe et auteur d'un livre passionnant consacré au stade mythique. Rémi Fier, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. À vos côtés, un duo d'architectes associés dans une même agence, l'agence SCO, spécialisée dans la construction de stades. Luc Delamain et Maxime Barbier, bonsoir.
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 Bonsoir à vous deux et bienvenue, bien entendu. Et puis juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minanzio. Ce soir, le boss Bruce Springsteen et sa vision américaine du sport. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Au menu ce soir, une promenade architecturale dans les cathédrales du sport.
L'œil du tigre. Philippe Collin sur France Inter.
Alors, en préambule, comme un échauffement, c'est notre habitude, le sémillant professeur de gymnastique, monsieur Robert Reynaud, dans son costume trois pièces, vous propose ce soir de piétiner. Oui, piétiner comme un sale gosse, c'est excellent, paraît-il, pour la santé cardiaque.
Vous faites un piétinement d'enfant coléreux, vous voyez, qui n'a pas obtenu satisfaction. C'est très laid, c'est très vilain, vous ne le faites jamais, vous le faites simplement là pour nous, ce matin, pour nous faire voir comment il ne faut pas faire, justement. Vous courez sur quatre pas, en souplesse, en foulée, et puis vous trépignez, vous piétinez sur place, sur quatre autres pas. Allez, avec nous, quatre pas d'abord sur la pointe des pieds, et puis vous piétinez très fort, et quatre pas sur la pointe des pieds. Hop là, piétinez bien. 1, 2, 3, 4, piétinez très fort, quatre pas sur la pointe des pieds. Vous piétinez, non plus fort votre piétinement, très vite, quatre pas là. 1, 2, 3, 4, quatre pas encore sur la pointe des pieds, vous piétinez, très vite et très fort, quatre pas, quatre piétinements. Quatre pas, quatre piétinements, plus fort vos piétinements, comme si vous vouliez passer au travers du plancher, exactement, voilà. Quatre pas sur la pointe des pieds, c'est fini.
Et voilà, après avoir bien piétiné, prenons à grandes enjambées le chemin du stade, voici l'histoire du dimanche soir. À l'aube du XXe siècle, en 1904 précisément, au moment où la République française se séparait de l'Église, Marcel Proust publia une tribune dans le Figaro sur la mort des cathédrales. Accaparé par sa recherche du temps perdu, Proust n'a sans doute pas aperçu alors que naissait partout en Europe ce qu'on a appelé le mouvement sportif, avec des édifices monumentaux, sorte de cathédrales profanes, églises des temps nouveaux où viendraient bientôt communier des fidèles de plus en plus nombreux, au point qu'à l'époque, on se posait beaucoup de questions sur l'architecture des stades.
Du côté de Coubertin, l'évolution même de l'architecture des stades est intéressante.
Puisque... Alors c'est un problème absolument passionnant, le problème des stades, parce que il en pose au moins deux ou trois. Le premier, c'est trouver une uniformité. Et cette uniformité ne s'est pas trouvée d'emblée. Les stades ont des dimensions différentes. Certains, je pense par exemple au stade pour le cyclisme, certains ont 300 mètres de tour, d'autres 400, d'autres 500. Alors ça donne des records qui sont différents, ça donne des épreuves qui sont différentes. Et puis, ça je parle des années 1880, 1890. Et puis insensiblement, ces types de dimensions s'unifient, se régularise et on trouve des stades qui se standardisent.
Le stade d'athlétisme des Jeux Olympiques de Paris en 1900 laisse encore des arbres au milieu, un mélange de nature et d'artifice.
Ça, c'est effectivement le deuxième changement. Et on voit que l'exigence du regard s'impose insensiblement. Et il faut un stade qui permette de balayer l'ensemble des épreuves. Et puis, il y a un troisième changement que l'on oublie. C'est que pendant très longtemps, les sportifs ont pensé que s'ils multipliaient les activités sur le même lieu, ils allaient séduire davantage les spectateurs en montrant la profusion, en quelque sorte, de leur pratique. C'est ce que l'on voit aux Jeux Olympiques de 1908 à Londres. Le stade est d'ailleurs, de ce point de vue, tout à fait marquant, notable, puisque c'est une sorte d'anneau concentrique qui, au milieu, comprend la piscine, sur le premier bord comprend la piste d'athlétisme, et sur un autre bord encore comprend la piste cycliste. Mais les épreuves ont lieu en même temps. Et les gens du comité olympique se félicitent de ce genre de choses en disant « Voilà, nous montrons la richesse du sport, la diversité. » Et bien entendu, là encore, l'exigence du regard va insensiblement l'emporter. La spécificité du spectacle va s'imposer. Et à la fin des années 10, nous aurons des spectacles complètement différents, beaucoup plus spécifiques, avec des espaces qui, eux, sont totalement normés.
Discussion passionnante et passionnée entre deux historiens que nous aimons ici, Jean-Noël Jeannet et Georges Vigarello. Rémi Fierre, vous êtes journaliste à l'Équipe, oui. Déjà, pour commencer, grand journal du sport et de l'automobile, comme on disait à l'époque, et auteur d'un livre consacré au stade mythique du foot. En réalité, Rémi, c'est un peu un condensé de l'histoire du XXe siècle à travers les stades que vous avez écrit. En quelques mots, pourquoi ce tour des stades? Qu'est-ce qui vous a poussé au départ, Rémi Fierre?
Alors déjà, c'est une proposition d'un éditeur que je ne pouvais pas refuser. C'était en période de confinement,
donc ça m'occupait un petit peu.
Voilà. Et puis c'était un angle au fait auquel je n'avais jamais songé en fait de parler donc des stades de foot évidemment, de parler du football à travers ce que vous appelez les cathédrales, des temples, qui sont aussi des tombeaux, qui sont des écrins, enfin qui
des cimetières,
Voilà, de multiples facettes. Et l'idée c'était de raconter ça. Donc ça s'appelle mythe entre guillemets. Et donc je me suis dit qu'est-ce qu'un mythe dans l'imaginaire collectif? Un mythe c'est assez positif. Et en l'occurrence je ne voulais pas que ce ne soit que positif. Parce que dans les mythes, il y a des femmes qui sont tuées, des enfants qui sont mangés, enfin des choses comme ça. Donc c'est quelque chose de parfois sordide. Donc
ça fonctionne dans le livre, ça fonctionne. Parce qu'on croise des choses aussi terribles dans ce livre.
Oui, c'est ça. En fait, le premier but, c'était ça. C'était pas uniquement raconter que l'herbe est verte et que les équipes ont développé un football superbe. C'était de raconter que politiquement, il se passait des choses. Idéologiquement, il y a eu des combats. Socialement aussi. Et puis, il y a eu des drames. Donc l'idée, c'était d'arriver à raconter tout ça en forme de chapitre pour essayer de... Parce que c'est aussi très subjectif, forcément, parce que des stades, il y en a des centaines.
Là, il y en a 38, hein.
Oui,
il y a 38 stades petite... choisis par Rémi Fierre.
Une petite quarantaine dans le rôle du sélectionneur. Voilà, ce n'est jamais facile d'être un sélectionneur.
Luc Delamain, vous êtes-vous architecte associé à une grande agence qui est spécialisée dans les grands stades de football, hein. On vous doit notamment le Stade de France, la rénovation du Vélodrome, le Stade de Shanghai, la liste est très très longue. Qu'est-ce que ça représente pour un architecte concevoir, bâtir, construire un stade de football? Est-ce que justement, est-ce qu'on est bâtisseur de cathédrales du XXIe siècle quand on fait ça, Luc Delamain?
Oui, peut-être, c'est surtout un sport, là, le football, qui nécessite justement une aire de jeu qui est très grande, 70 mètres par 110 mètres, et avec un certain nombre de personnes autour, donc de, voilà, de 5000,
un petit
village, un petit stade en effet qui est très convivial, et jusqu'à justement des 80 000 voire des 100 000 qu'on retrouve aussi en Brésil avec des dimensions très importantes. Donc c'est vrai que ça nécessite de toute façon, dans ce cas-là, une architecture enveloppe en fait, hein, un cadre de jeu en fait qui doit être aussi à l'échelle de cette aire de jeu.
Maxime Barly, vous êtes vous aussi architecte associé à cette même agence qu'on évoquait à l'instant. Je reviens à ma question, est-ce que vous, à titre individuel, vous avez le sentiment, l'impression de construire des édifices monumentaux et être un peu bâtisseur de cathédrale du XXIe siècle? Je reprends ma question à laquelle Luc ne m'a pas répondu.
Oui, bien sûr. Mais de toute façon, Luc évoque la dimension et l'échelle de ces cathédrales. C'est sûr qu'elles font partie du paysage. Vous évoquiez d'ailleurs les premiers stades monuments au début du siècle dernier. On peut aussi remonter au-delà, hein, c'est l'époque gréco-romaine avec ce stade qui est à chaque fois une entité à part entière.
La vraie différence, Maxime, c'est que j'étais à Arles la semaine dernière, et il y a les arènes de Arles qui sont magnifiques, hein, qui est le stade antique, hein, mais qui est au cœur de la cité. Hein. Le jeu J-E-U est au cœur de la cité. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'on met le stade et le jeu hors de la cité pour des raisons de dimension, et il est souvent maintenant construit en périphérie des villes. Ça, c'est très différent quand même.
Alors, le cas de Arles est très particulier parce que justement, il a été construit sur la place du village médiéval. Donc, on trouve effectivement ce rapport de centralité entre le stade et la ville. Mais, par exemple, c'est vrai qu'on a construit le stade Vélodrome de Marseille. C'est un stade aussi qui est très urbain, qui est
au cœur de la ville.
Ce qui n'est pas le cas de nombreux stades, notamment de Coupe du Monde, qui sont construits au banc de la ville, souvent, et qui posent tout un tas de problèmes aussi de connexion et de porosité. Alors c'est vrai que nous, on est architectes, donc on s'intéresse justement à la spatialité, au comportement, aux usages, et à la diffusion et aux limites de ces enceintes avec la ville. Et d'ailleurs, on a travaillé sur le Vélodrome, qui est un stade monument, effectivement, à l'image de l'emblème de la ville, du maire à l'époque, qui était un maire très emblématique, et puis d'un club aussi, d'un mythe, mais on a travaillé aussi sur d'autres projets, beaucoup plus, je dirais, populaires et beaucoup plus ouverts.
Le stade de Bauer, par exemple, hein, grand club de football français populaire. Voilà.
Tout à fait, le stade Bauer, qu'on va réhabiliter.
Le Red Star, bien sûr.
Le Red Star, qui est un club qui, à la base, justement, est un club très populaire, dans le quartier des Puces, donc avait une vraie histoire, et qui va permettre justement d'avoir tout un programme immobilier et urbain autour de l'arène sportive et de justement redonner une nouvelle image en fait de ces enceintes,
de créer de la porosité
pour créer justement de la vie. Faut savoir que la plupart des grands stades, le Vélodrome par exemple, il est utilisé une trentaine de fois dans l'année, donc c'est un vrai sujet, non seulement la polyvalence, mais voilà, on parle des stades vides aujourd'hui avec les problèmes sanitaires, mais les stades sont souvent vides en fait, et évidemment le grand public ne le voit pas parce qu'on voit pendant une manifestation. Donc ça, c'est encore une fois, en tant qu'architecte, on a aussi un vrai rôle à jouer là-dedans, et on est très heureux que cette histoire se concrétise sur le stade Bauer.
Rémi Fia, votre premier chapitre s'appelle « Première clameur » au pluriel, et on revient sur le début du XXe siècle. Et ce que vous dites, c'est intéressant, c'est que alors même que le football n'est pas du tout un sport mondial comme il va le devenir, les enceintes sont déjà gigantesques. Prenons par exemple Wembley, à Londres. Est-ce qu'on peut raconter rapidement la naissance de ce stade mythique
bien sûr.
En Angleterre?
En fait, donc c'est l'Empire britannique, c'est une exposition de l'Empire colonial, comme on en faisait en France dans les années 20 et les années 30, c'est-à-dire quelque chose de gigantesque.
1924,
et les organisateurs décident de construire un stade gigantesque, de 120 000 places, au sein de cette exposition universelle. Le stade se construit très vite, beaucoup plus vite que ce qu'ils imaginaient, et en fait, en 1923, donc un an avant l'inauguration, il est prêt et se dispute la première finale de la Ligue anglaise, entre les Bolton Wanderers et West Ham. Donc, on vend 126 000 billets.
126 000 billets en 1923, hein, il faut le redire.
Donc, c'est quand même le berceau aussi du jeu. Enfin,
c'est impressionnant, hein, quand même. C'est impressionnant.
Et d'autant plus impressionnant que plus de 200 000 personnes arrivent, espérant, on est tous pareils, on va aux abords des stades en disant peut-être que je vais trouver une place, etc.
Ça n'a pas changé, pour le coup.
En l'occurrence, ça ne s'est pas passé comme ça tout à fait. Il y a eu des heurts, enfin des chocs, la police est intervenue, et le match a eu lieu avec une heure et demie de retard, mais enfin devant 120 000 spectateurs. C'est pour ça que je trouvais que ça ressemblait un petit peu au berceau de ce que j'avais envie de raconter, parce que Wembley, ça parle à tout le monde. Wembley, ça a été construit, ça a été détruit, ça a été reconstruit. Enfin, il y a toute une histoire qui résume en fait le foot.
Alors justement, construit, reconstruit, rénover, Luc Delamain, parfois on doit rénover un stade, hein, comme le Vélodrome par exemple, ou Wembley. Mais on a beaucoup dit à propos de Wembley que ça avait perdu son âme après la rénovation. Comment est-ce qu'un architecte fait attention à ça? Il y a une histoire dans un stade, hein. Bauer, c'est une grande histoire française. Comment est-ce qu'on fait pour s'approprier l'âme du lieu en essayant de le rénover sans le perdre? Comment on fait ça, de la main architecte?
C'est un travail au quotidien avec aussi le club, avec la ville et le club, en fait. Faut imaginer que c'est justement un équipement de ville pour tous. Et de travailler sur cette tradition et cette transmission qu'il y a justement de ces grands équipements justement dans la ville. Bauer, en effet, est un exemple. Mais bien sûr, le Vélodrome aussi était un énorme, parce que c'était aussi une rénovation, reconstruction, en effet, du stade. Mais c'est pour ça qu'il est resté aussi dans la ville. Et ça, c'est important, même à Valenciennes ou à Havre, à chaque fois, les stades restent dans la vie, parce qu'en fait, il y a une histoire qui est là, et les gens qui pratiquent le stade veulent vivre ce moment-là justement dans la ville, qui soit proche, qui fait partie justement de ces repères, de ces bâtiments qui sont un repère dans la ville pour pouvoir voir son équipe justement gagner ou perdre, d'ailleurs. Et ça, c'est en effet quelque chose qui est essentiel.
Rémi Fier.
C'est une question que je voulais vous poser, parce que depuis la reconstruction du Vélodrome, en fait, moi j'ai l'impression que avant les stades étaient un peu comme des corolles, c'est-à-dire ils s'ouvraient vers le ciel, tout n'était pas forcément entouré de toits. Et alors, ce qu'on m'a dit, c'est que le bruit n'était plus le même. Que les gens étaient au début un petit peu interloqués par...
Effectivement, il est meilleur.
Il est meilleur.
Il est meilleur, parce que la présence d'un toit, elle est très importante, au-delà des intempéries. Hein, parce qu'à Marseille, quand il pleut rarement, mais quand il pleut beaucoup. Il y a un vent qui faisait que, de toute façon, les spectateurs étaient vraiment inconfortables. Donc il y avait un sujet quand même d'intempéries. Mais au-delà de ça, le toit permet, et l'enveloppe, hein, d'une manière générale, parce qu'un toit, tout d'un coup, peut se retourner en façade, donc l'enveloppe permet aussi de contenir l'ambiance. Et les Anglais ont compris ça très tôt, justement. Et on a souvent des toits dans les stades anglais qui sont très bas, qui peuvent paraître inconfortables, mais qui, pour l'ambiance, sont extraordinaires. Donc le Vélodrome, c'est vraiment ça. Et c'est d'autant plus ça qu'on a une géométrie de gradins qui est ondulée comme ça, et qu'on a volontairement créer un toit qui suit cette ondulation. pour vraiment être au plus proche de l'ère de jeu. Donc nous, c'est toutes ces choses-là qui nous intéressent, encore une fois, hein, c'est les rapports entre les spectateurs, les joueurs, d'être au plus proche de quelles sensations on peut avoir, et puis de spectateur à spectateur aussi, hein, c'est comme dans les théâtres aussi antiques, hein, c'est voir, être vu, la hola, enfin tous ces comportements, qu'est-ce que ça veut dire? Comment nous, architectes, on peut insuffler un vrai travail, une intelligence pour créer justement des lieux uniques.
Rémi Fier, on sent qu'il y a une dimension affective aussi dans ce livre que vous avez écrit, de par vos choix déjà, vos choix subjectifs de ces 38 stades. C'est forcément des souvenirs aussi à un stade. Est-ce que vous avez le souvenir, vous, de votre première expérience au stade en tant que gamin, j'imagine?
Oui, alors j'ai une expérience assez étrange parce qu'en fait, donc je suis lyonnais, mm-hmm. C'était Gerland.
D'accord. Le grand stade de Lyon.
Qui s'appelait Gerland. Voilà. Gerland, on disait pas.
On disait pas le Groupama Stadium. Quelle tristesse, on va y revenir.
J'ai des souvenirs très précis parce que je suis né en février, donc c'était l'hiver. Ouais. Mon père détestait le foot et le sport en général et avait quand même décidé de m'accompagner voir un match. Et donc c'était le match Lyon-Nice. Mm-hmm. Alors ça devait être 72 ou 73. Avec, alors ça parle peut-être qu'à moi, mais un joueur qui s'appelait Charlie Loubet, qui était un joueur niçois, et qu'en fait on accusait souvent de se tordre un peu sur le terrain à la Neymar. Mm-hmm. Et donc je me souviens, dans les tribunes, on a eu la première fois qu'il est tombé, c'est monté cette espèce de chant Loubet, 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 pour se moquer de lui. Voilà. Je me souviens plus, je crois que le Lyon avait gagné, où il y avait match nul, je me souviens plus très bien. Et il faisait très froid. Et on était debout. Enfin bon, voilà, c'est mon premier souvenir.
Messieurs les architectes, la même question. Est-ce que vous fréquentez les stades? Est-ce que vous fréquentiez les stades gamins? Est-ce que vous avez des souvenirs, vous, d'enfants au stade? Luc
oui,
Delamain.
Oui.
Alors allons-y.
Mon père était gardien de but. Donc
le fils allait voir le père au stade?
Exactement.
Il jouait où, votre père?
Persan-Beaumont, c'est au nord de Paris. On en parle un petit peu pour d'autres raisons. Mais c'était en effet un club qui était important. Et mon grand-père était maçon et il peignait les rambardes en béton qui étaient autour du stade. Puis j'allais voir, en effet, mon père derrière les buts.
Maxime Barbier ?
Non, alors moi, je ne suis pas spécialement un grand fan de
mais aujourd'hui,
mais moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est les comportements, c'est au-delà du jeu, justement. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe derrière? On parlait tout à l'heure de comportements un peu houleux, évidemment, hein, le sport, c'est aussi ça. Et nous aussi, on essaye de parler de ça dans nos projets, quand on parle de limites entre la ville et entre le jeu. Est-ce que, justement, on peut se comporter n'importe comment dans un stade, hein, parce qu'on a vu aussi toutes les dérives qu'il peut y avoir derrière. Mm-hmm. Est-ce que, justement, la ville peut avoir aussi un contrôle de ce qui se passe à l'intérieur du stade et réciproquement? Donc moi, c'est toutes ces histoires-là qui m'intéressent. Mais bien sûr, c'est agréable de voir un bon match.
D'accord. Rémi Fier, on va terminer cette première partie avec vous. Ce livre est préfacé par Youri Djorkaeff, qui est un ancien footballeur, champion du monde, entre autres, en 1998. Et il dit une chose intéressante. Il dit, évidemment, c'est une arène où il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Il dit arène, mais aussi cimetière. Cimetière où des illusions sont enterrées, etc. Bon, pour un joueur, mais aussi pour des supporters. Et en fait, on s'aperçoit dans cette préface de Djorkaeff qu'un stade de foot, c'est des grandes joies et aussi des grandes peines. Ça, c'est vraiment important de le dire à ce micro.
Oui, c'est même primordial parce qu'on ne peut pas gagner tout le temps. Ça n'existe pas, c'est impossible. Et donc, il faut s'habituer à la défaite. Il y a des victoires qui font plaisir et des victoires qui font moins plaisir. De même qu'il y a des défaites qui sont pas des victoires, mais qui pourraient ressembler parfois à des victoires. Et ce qui rend le foot esthétiquement beau, je pense que c'est ça, cette espèce de réaction par rapport à ce qu'on a vécu, que l'on ait gagné ou que l'on ait perdu. Et Djorkaeff, il l'explique très très bien. Et il raconte même, d'une manière un peu plus générale, qu'un stade, ça se dresse comme un animal, en fait, de cirque. Il raconte, effectivement, on arrive dans un stade qu'on ne connaît pas, on rentre, on marche sur la pelouse, on hume, on regarde, on écoute, et puis petit à petit, on essaye à 11 de faire en sorte que ce stade obéisse à ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire de gagner. Et en fait, je trouve qu'il en parle très très bien.
Il y a un sixième chapitre intitulé « Théâtre tragique », qui fait aussi écho à un cimetière au sens premier du terme, beaucoup plus tragique pour le coup. Notamment, vous parlez du stade de Santiago du Chili, le National. Est-ce qu'on peut en dire un mot, raconter l'histoire de ce stade qui est un peu sordide, qu'on a appelé le stade de la mort, justement?
Oui, donc c'est le stade national du Chili. Donc c'est les années 70. Allende, le président, a été renversé par une junte militaire commandée par le général Pinochet. Et en fait, ce stade-là, qui était le stade de l'équipe nationale, se transforme petit à petit en terrain d'emprisonnement et de torture. En fait, on y fait entrer les opposants.
On estime à 40 000 personnes qui sont passées par ce stade camp.
Et des milliers de morts dont on peine à comptabiliser le nombre parce que c'est toujours un petit peu compliqué. Et voilà, parce que les stades, c'est aussi ça. En fait, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas uniquement ce que je disais tout à l'heure. De la pelouse et des mecs en short, quoi. C'est effectivement un lieu d'affrontement idéologique, politique, et puis ça se transforme parfois en prison, ce qu'il y a de plus choquant par rapport à l'image qu'on se fait de ces endroits-là, quoi.
Ce stade aujourd'hui, il existe encore, le National, ou pas?
Alors vous me posez une colle, je dirais oui.
D'accord. Bah écoute, disons oui, on ira vérifier juste après l'émission. En tout cas, on va faire une première pause musicale avec une French touch. Voici Lose and the Yakuza, le titre joué Amigo.
Presque au bout du rouleau, pas encore fou mais bientôt. On m'a mis à genoux, c'est qu'on était jaloux. Une envie de crier fort, girl faut faire des efforts. C'est tout, le mal est partout, j'ai fait le tour. Presque au bout du rouleau, pas encore fou mais bientôt. On m'a mis à genoux, c'est qu'on était jaloux. Le tour.
Dans l'élite moderne, le sport a certes une place enviable. Ses turiféraires lui voûtent un véritable culte pour lequel il célèbre d'étranges fêtes. Ainsi pressés, agglutinés, mêlés au coude à coude, les adeptes du football lancent-ils chaque semaine des clameurs que porte loin le haut-parleur du vent. Au travers d'une liturgie faite d'enthousiasme et de passion, des milliers et des milliers de personnes se laissent ensorceler par les évolutions du ballon, hissant les joueurs professionnels au rang de dieux.
Philippe Collin sur France Inter.
Une fois le lieu de culte construit, il faut le baptiser. Et tout au long du XXe siècle, le nom des stades portait une mémoire ou racontait une histoire. À Reims, par exemple, le stade de foot s'appelle Auguste Delaune, en hommage au secrétaire général de la Fédération sportive et gymnique du travail, torturé à mort par la Gestapo en 1943. À Auxerre, le stade de foot s'appelle l'Abbé des Champs, en souvenir de ce prélat français précurseur qui a lancé le club de la ville dès 1905. À Saint-Denis, au nord de Paris, pour le grand stade, ce fut un peu plus compliqué.
Trois mois après la pose de la première pierre, le grand stade où se déroulera le 12 juillet 98 la finale de la Coupe du Monde de football a enfin trouvé son nom, le Stade de France. Les concessionnaires souhaitaient une appellation style Elysium qui parle aux étrangers. Les puristes souhaitaient le baptiser du nom d'un sportif comme Jules Rimet, le fondateur français de la Coupe du Monde.
Le jour se lève sur le chantier de ce qu'on appelle encore le grand stade.
Le 12 juillet 1998, la finale de la Coupe du Monde de football aura lieu au Stade de France.
Eh bien voilà, c'était pas compliqué. Stade de France, juste le choix le plus consensuel et le moins risqué.
C'est pas original, mais c'est un nom qui va rester dans l'histoire et qui est très beau.
Le Stade de France qui en tout cas ne sera pas que le stade du football.
Je crois qu'on a une chance extraordinaire, c'est que le rugby va finalement inaugurer ce grand stade avant la Coupe du Monde de football. En tout cas, l'équipe de France est prête, elle sera au rendez-vous.
Ce sera pour le tournoi des 5 nations 1998 si le chantier avance comme prévu, puis il y aura donc la Coupe du Monde et d'éventuels Jeux Olympiques. Le grand stade a désormais un nom, il reste à lui construire un destin.
Le destin fut grand, en effet, pour ce Stade de France, évidemment, et puis ce nom aussi est fait, après tout, voilà, le Stade de France. Cela dit, Rémi Fier, j'en appelle aux passionnés que vous êtes, c'est quand même compliqué, on a un petit souci avec le parrainage, le nom donné au stade au pluriel au XXIe siècle. Je préfère aller à Auguste Delaune, moi, et raconter à un gamin ce que c'est qu'Auguste Delaune que d'aller au Groupama Stadium ou au Matmut Atlantique Stadium, je sais pas quoi, ou le Parc Orange. Ça abîme un peu la magie du lieu, quand même, ce naming, comme on dit en anglais, aujourd'hui, le parrainage. On sait que l'argent est partout, hein, maintenant, c'est une question de pognon. Mais quand même, ça abîme un peu la magie du
Alors,
lieu.
Alors, je dirais que ça l'abîme à nos yeux, parce qu'on a connu ces stades-là qui ont souvent d'autres noms, et on était habitués à les prononcer. Après, les générations nouvelles, honnêtement, je ne sais pas comment ils pourraient réagir par rapport à, je sais pas, Stade Vélodrome ou Orange Stadium. Ça, je ne sais pas. Après, effectivement, c'est sûr que on ouvre une porte aux puissances de l'argent qui sont déjà là, de toute façon, dans le sport professionnel depuis très longtemps, mais qui posent leurs pattes un peu griffues sur ce monde du sport qu'on aimerait un peu plus light. Alors, effectivement, Orange Stadium, Groupama Stadium, je suis comme vous, j'ai un petit peu de mal, mais...
Mais ça va au-delà des souvenirs, hein, Rémi, parce qu'on parle de la République, de la mémoire, du souvenir. Je répète, c'est quand même un peu plus important de raconter à un gamin qu'on accompagne au stade qui est l'Abbé Deschamps ou qui est Auguste Delaune, hein, plutôt que au Groupama Stadium. Le gamin, peut-être qu'il s'en fout, mais quand même, il y a un truc qui est un peu exaspérant dans cette histoire.
Mais quand il vient me dire « mais qui est Orange ?», je pourrais pas lui dire. Madame Orange.
Oui, Madame Orange. Messieurs les architectes, Maxime Barbier et Luc Delamain, là j'en appelle aussi aux artistes que vous êtes. Vous créez des enceintes magnifiques. Est-ce que ça abîme pas un peu votre travail que ça s'appelle le Groupama Stadium, bon sang ? Maxime Barbier.
Écoutez, de toute façon, dès lors que on livre un bâtiment, comme on dit dans notre jargon, donc quand le bâtiment est construit, c'est le moment où le bâtiment commence à vivre.
Oui,
donc
bien sûr.
C'est à la limite le choix du prénom, je veux dire, ne nous appartient pas.
Ouais, OK. Ouais. D'accord. Luc Delamain, un commentaire ?
Oui, c'est vrai que dans notre regard, parce qu'on a été fait pas mal de voyages en effet à l'étranger, bon, ils sont beaucoup plus habitués, c'est vrai qu'il y a des générations nouvelles qui sont beaucoup plus habituées qui manient, disons, ce concept un peu mieux, mais c'est vrai que c'est un peu regrettable. Heureusement qu'en effet, ça s'appelle Stade de France quand même, c'est important, je pense que là, ça va plutôt bien. Mm-hmm. Mais pour le Vélodrome, ça reste le Vélodrome, hein, je veux dire, ou même Bercy, je vois Bercy, on va à Bercy.
Bien sûr, on ne dit pas...
Donc, c'est important, et ça reste quand même, il reste que ce qui est important, c'est ça.
Absolument. Rémi Fier, ça fait longtemps que vous fréquentez les enceintes sportives. Qu'est-ce qui a le plus changé pour vous au stade de ces 30 dernières années ?
C'est assez marrant parce que je me souviens d'avoir entamé une réflexion dans les années 90 avec le directeur du Parc des Princes qui s'appelait Lionel Drexler, qui a disparu depuis, qui était un personnage charmant, et on essayait d'envisager l'avenir de ces stades-là. Effectivement, on parlait déjà de l'inutilisation des stades pendant des jours et des jours, donc il réfléchissait effectivement à l'idée de faire des concerts, de faire venir des véliplanchistes, des épreuves de ski, des choses comme ça. Et puis en fait, la question qu'on se posait, c'est à l'époque, c'était, est-ce que finalement, il faudrait pas des stades plus petits dans lesquels il n'y aurait plus spectateurs? Ce qui est un peu ce qui arrive en fait en ce moment.
Oui.
Parce que on trouvait que le stade, c'est merveilleux pour vivre les instants présents. Mais en fait, fondamentalement, on voit pas grand chose, en fait, dans un stade. Une fois que l'action est terminée, enfin, quand j'ai commencé à suivre le foot.
C'était comme ça.
il n'y avait pas d'écran géant. Et donc, vous tourniez la tête, il y avait un but, vous étiez incapable de le raconter. Donc, il fallait demander au journaliste d'à côté qu'est-ce qui s'est passé. Lui-même savait pas trop, donc il fallait un peu. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'était un petit peu ça. Et donc, on se disait que la meilleure façon de regarder du foot, mais d'autres sports, c'est chez soi, parce que, effectivement, on a une multiplicité de prises de vue, on peut comprendre, expliquer, analyser tout ça. Mais qu'en même temps, le fait d'être dans un stade, c'est participer à l'histoire. Alors, il y a des gens qui diraient de l'histoire avec un grand H, c'est peut-être l'histoire avec un petit H, peu importe, mais être là, c'est pouvoir dire après, j'y étais. Le football, notamment en Angleterre, mais chez nous aussi, ça devient de plus en plus réservé à des gens qui ont de l'argent.
Et oui.
Il y a de plus en plus de loges. Moi, quand j'ai commencé, il y avait très très peu de loges, par exemple.
Salons de loges, oui.
Ouais. Il y avait beaucoup moins de confort. Enfin, à Gerland, quand j'ai eu le premier match avec mon père, j'étais sur des gradins en béton, debout. Ça n'existe plus. Donc tout ça, il y a une espèce de luxuisation, je sais pas comment on peut dire, des terrains, pour le plus grand confort des gens qui y viennent, parce qu'effectivement, on achète une place, on a envie que ce soit confortable, chaleureux.
Maxime Barbier, vous voulez réagir à ça ?
Oui, parce que dans ce que vous dites, c'est intéressant. Bien sûr que on est plus confort chez soi à regarder un match à la télé et on va pas louper le but, on a même les ralentis. Mais par contre, quand on va au stade, on va chercher autre chose. Donc, je pense qu'on va chercher justement une ambiance. On participe à une histoire avec un grand match, mais on participe aussi aux histoires qui se créent dans le stade. C'est encore une fois des lieux de convivialité. Ces lieux où justement la ville se prolonge dans l'enceinte sportive. Et on va voir autre chose. Et vous dites qu'effectivement, il y a plus de loges, plus de salons. Et on voit comment, nous, architectes, comment ces loges et ces salons sont pratiqués. On est surpris, bien souvent, voir, en fait, les gens qui vont regarder un petit peu le match, qui reviennent dans la loge. Mais parce que, justement, ils cherchent aussi autre chose. Donc, je pense que ça va au-delà du match, ça va au-delà du sport. Je crois que ces arènes, elles sont là, encore une fois, c'est pour créer du lien. Et qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qui s'y passe? Et il se passe autre chose qu'un simple match de foot, en fait.
Rémi, vous voulez réagir? Allez-y, réagissez.
Il me semble qu'à l'époque, on parlait d'expérience. Déjà, c'est ce qu'on dit aussi maintenant, c'est qu'en fait, le grand questionnement, c'est de se dire comment on fait pour que les gens qui viennent restent plus longtemps. Oui. En fait, c'était ça. Et oui, dépense le plus d'argent possible, donc la restauration, oui, des boutiques, des machins comme ça. Et en fait, les stades d'aujourd'hui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, oui, c'est pas effectivement, c'est pas uniquement un terrain de foot, mais c'est aussi parfois des salles de cinéma, un hôtel, oui, des restaurants.
Une galerie commerciale.
Oui, 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 hein, oui.
Voilà. Luc Delamain, quel changement vous avez vu, vous, en 20, 30 ans sur le Stade, oui, de France? C'était 98, c'était il y a longtemps, oui, déjà. Donc,
non, mais c'est cette évolution. D'ailleurs, oui, même on retravaille sur le Stade de France aussi pour le faire évoluer par rapport à des hospitalités, par rapport, en effet, à une autre façon de vivre, encore une fois, ce spectacle exceptionnel. Mais c'est vrai que ces différentes fonctions qui viennent, et comme disait Maxime, de la prolongation de la vie sur l'aire de jeu, c'est essentiel aujourd'hui. Et je pense que c'est important. C'est une nouvelle manière, en effet, de vivre, en effet, le sport dans la ville d'une manière presque démocratique, républicaine. Je pense qu'il y a des choses qui sont à donner, justement, à cette expérience-là où on est tous ensemble autour d'un même spectacle. Il y a 80 000 personnes qui regardent un même spectacle au même moment. Et c'est différent qu'en effet, que chez soi, où on est tout seul, où on peut se permettre des choses. Là, je pense que c'est important qu'on puisse vivre en famille, différemment, dans les loges, en effet, en regardant. Mais on est là, on est présent. Et cette présence-là, je pense qu'elle est unique. Et ces enceintes sont toujours importantes. Après, qu'il y ait des différences de jauge, faire l'évolution de jauge et tout ça, et je pense que là, il y a beaucoup de... On travaille d'ailleurs sur Bauer, on travaille en nature sur cette nouveau type de stade. Tous, on peut être à l'intérieur, justement, avec des prix très différents. Alors, Bauer, c'est un peu spécifique. Mais je pense que ça fait partie aussi de l'avenir des stades.
Mais est-ce que le risque, Rémi, ou vous deux, messieurs, c'est de pas aussi abîmer l'esprit du football au départ? C'est-à-dire que ce qu'on entend là, c'est très joli, hein, c'est très bien, le spectacle familial, moi, j'ai rien contre, au contraire, mais c'était aussi un exutoire populaire, le football. Là, on allait à la tribune aussi parce qu'il fallait aussi exprimer des colères, etc. C'était aussi une manière de laisser vivre des émotions.
On peut tout dire aujourd'hui dans un stade, c'est vrai. Tous les messages sont dits.
Non, mais c'est aussi très compliqué. Ouais. Mais c'est pas forcément à ça que je faisais appel. Je fais appel à des gens qui payaient 12 francs à l'époque une place dans le COP pour vivre une aventure collective, soutenir une équipe, gueuler, chanter. Ça, on sent que c'est peut-être menacé aussi par ce spectacle familial. Vous en pensez quoi, Luc?
Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a des messages dans les stades qui sont, je pense, qui ne devraient pas y être. Et, et en effet, de tout type. Et aujourd'hui, je pense qu'au contraire, il faut renforcer des manières de faire pour que les gens se comportent d'une autre manière. Et je pense qu'on peut être tous ensemble et fêter et être en joie, justement, ou en du temps par avoir une défaite ou justement une réussite, mais dans quelque chose qui est contrôlé. Ça ne doit pas être un exutoire, justement, de violence, de haine, de... On ne peut pas vivre le stade comme ça. C'est autre chose, je pense, le sport. C'est d'autres valeurs, en effet, qui doivent être portées. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal de cas, justement, où il y a des messages de tout type, en effet, qui sont vraiment réprimandés.
Rémi, Maxime Barbier, pardon.
Et par ailleurs, je complète juste ce que vient de dire Luc. Moi, je trouve que c'est très positif que ces stades s'ouvrent de plus en plus à un public de familles, de femmes, d'enfants, et qui n'est pas uniquement réservé à des gens qui sont fans de foot, et ça va justement au-delà. Je trouve qu'il y a quelque chose de très positif derrière ça. Après que, justement, ce soit un vrai business, que les places sont de plus en plus chères, ça c'est un vrai sujet. Je partage complètement, hein. On est les premiers, d'ailleurs, on est tout le temps surpris. Mais par contre, la démocratisation de ces enceintes, de ce sport, et l'ouverture, justement, à un autre public, je trouve ça très bien. Je pense que ça désacralise aussi le stade. Ça n'empêche pas la liesse, mais par contre, ça désacralise ces enceintes. Ces enceintes, c'est des monuments très bien, mais un monument qui est mort, qui est vide, ou qui est uniquement réservé à une certaine classe, je trouve que c'est dommage. Je pense que ces monuments, ils doivent vivre.
Je ne vais pas faire la promotion des messages insupportables dans les stades de foot. Mais ce que je veux dire, c'est quand vous êtes à la Bombonera, par exemple, en Argentine,
oui.
Voilà un stade qui vibre, qui fait peur à l'adversaire, mais parce que c'est un jeu de spectacle.
Oui,
et ça, on s'en est beaucoup plaint en France, que tout d'un coup, peut-être que le Stade de France avait perdu aussi ce côté fiévreux, sans aller jusqu'à des messages politiques insupportables ou détestables. Rémi Fier, vous me regardez, vous êtes d'accord avec moi?
Oui, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, ça me fait penser à ce que disait Jürgen Klopp du stade de Dortmund quand il est entraîneur de Dortmund avec son fameux mur jaune.
Oui, bien sûr.
Il y a 25 000 personnes qui hurlent, qui sont dans une ambiance assez sympathique, entre guillemets. Enfin, c'est pas,
c'est
pas délirant. Et il avait calculé.
Spectacle, du théâtre.
Du théâtre, du spectacle. Et il avait calculé que ça rapportait chaque saison un certain nombre de points à son équipe, simplement parce que le public était là.
Et ça faisait peur aux adversaires. Bon, c'est tout ce que je dis.
Mais non, mais ça, c'est déjà dans l'architecture du stade, oui. Justement, il y a une proximité de l'aire de jeu.
C'est intéressant.
Dans le stade de France, on est un peu loin parce que justement, il y avait l'athlétisme qui était prévu au départ. Donc, on est un peu plus loin.
Il y avait la piste. Voilà, exactement.
Donc, on est un peu loin, tandis que c'est vrai que c'est important d'être très proche. La notion de mur, justement, de fond, ça, c'est important.
Le mur, c'est vraiment des supporters qui contrastent. Montent comme ça, très en hauteur.
Il y a une théâtralité dans le stade, c'est essentiel. C'est essentiel pour que, justement, quand on est 80 000 places, ça se sente et qu'on soit plus proche.
Ah, bah, ça me fait plaisir.
Non, mais bien sûr.
Ça me fait plaisir.
Qu'on soit plus proche. Non, mais par contre, c'est sur ce qui est dit et ce qui est affiché, ça.
Oui, oui.
Ça, non.
Ça, bien sûr que non. C'est pas ça que je pensais. Je pensais plutôt à la Bombonera, vous voyez.
Oui, mais bien sûr. Mais ça, c'est important, évidemment. Et architecturalement, on a beaucoup à apporter, justement. Là, on travaille encore sur d'autres stades où on essaie encore plus près, vraiment aller à la limite de la règle pour être justement avec le joueur sur le terrain.
Ces stades vides qu'on aperçoit depuis ces derniers mois à cause de la crise sanitaire, et donc quel effet ça vous fait aux uns et aux autres, aux architectes et aux passionnés de football? C'est étrange de voir ces cathédrales tout d'un coup désertées à la télévision.
C'est très étrange, mais malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est en fait la réalité, hormis cette crise sanitaire. C'est-à-dire que les fameux éléphants blancs, qu'on appelle les éléphants blancs, qui étaient à la base notamment tous ces stades de Coupe du Monde, qui coûtent quand même des milliards à construire, avec toutes les infrastructures qui vont autour, et qui sont deux mois après l'événement, ou trois mois après l'événement, qui sont laissés à l'abandon. Donc nous, c'est un peu notre quotidien d'architecte d'enceinte sportive, et de sport, et du jeu, qu'on manie depuis un moment. Donc à la limite, ça ne fait que mettre un peu à la vue, justement, de tous, cette situation. Parce qu'encore une fois, les gens ne s'en rendent pas compte, c'est que eux, ils voient le stade uniquement les 20 fois dans l'année où il est rempli.
Où il est rempli. Rémi?
Oui, non, moi je trouve que c'est des images assez douloureuses à regarder, en fait. Alors on s'aperçoit de l'architecture, donc c'est assez plaisant parce qu'on peut admirer votre travail, des choses comme ça, parce qu'on les voit toujours plein, mais moi il me manque quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il manque aussi quelque chose
aux joueurs. Bien sûr, ça se sent.
Peut-être que je me trompe, j'en sais rien, mais
on
a moins envie
sens.
De regarder. J'ai l'impression qu'ils ont un peu moins envie de se battre, parfois.
Pour aller dans votre sens, Rémi, je m'adresse à Luc Delamain. Une cathédrale, elle est parfois remplie, elle est impressionnante, elle est vide, elle est impressionnante. C'est-à-dire que ce que dit Rémi est juste. C'est-à-dire que tout d'un coup, on aperçoit un écrin gigantesque vide. C'est aussi, pour nous, spectateurs de la télévision, très impressionnant de voir cette architecture déserte, en fait.
Enfin, quand il y a la messe, il y a du monde, quand même. Mais bon.
Oui, mais bon.
Quand il y a le spectacle. Non, mais quand il y a le spectacle.
Oui, bien sûr.
Si on y va quand on y va, il y a d'autres moments, on peut apprécier, on est bien fait, l'architecture. Quand
il y a des messes où il n'y a plus grand monde non plus, mais. C'est un autre problème.
C'est un autre sujet.
Mais c'est sûr que ça n'a pas grand sens d'avoir ces gradins vides. Ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas été conçus comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on réfléchit à l'agence à des techniques différentes que des gradins en béton pour adapter justement les jauges. Parce qu'on en parle très peu, mais. Même ces stades mythiques dans le monde entier, le sujet, c'est pas uniquement qu'il soit rempli, c'est qu'en plus, il est rarement rempli. Donc, comment on peut adapter un stade 5, 10, 15, 20, 80 000 places? Comment on peut jouer là-dessus? Et aujourd'hui, la plupart des stades, ils sont faits en béton. Et béton, ça bouge pas. Par contre, on travaille aussi sur des gradins amovibles. D'ailleurs, il y a un des matchs de la Coupe du Monde au Brésil qui n'était pas fini, un des stades qui n'était pas fini, et le match s'est fait avec une partie de gradins amovibles. Ça s'est très très bien passé. Donc, je crois qu'il y a vraiment des sujets comme ça à réfléchir, à creuser. C'est important parce qu'il en va justement de cette souplesse et de cette agilité dont on a besoin pour de tels monuments. Parce que sinon, effectivement, ça n'a aucun sens de construire des enceintes si grandes et qui, effectivement, non seulement sont peu remplies et qui ne sont pas adaptables.
Les éléphants blancs. J'ignorais cette expression, c'est très joli. Dernière petite question pour vous, Rémi, il y a aussi un souvenir, le stade des Massues. Qu'est-ce que c'est que le stade des Massues, Rémi Fière?
Ben alors ça, c'est ce que je raconte, c'est qu'en fait, dans la mythification qu'on peut faire du football, quand on l'a pratiqué, le moindre terrain vague peut devenir un endroit exceptionnel parce qu'on a réalisé quelque chose
d'exceptionnel.
On a trouvé exceptionnel nous-mêmes, qui ne l'était pas évidemment.
Alors c'est quoi le stade des
Massues? En fait, moi à Lyon, je jouais dans un club un petit peu décalé qui s'appelait les Bandes Moltières Football Club, qui était un club issu de... je dirais la partie religieuse de la ville, pour pas m'étendre. Et en fait, on jouait au stade des Massues, qui était le stade des Jésuites de Lyon, où moi, je me suis entré.
Cinquième arrondissement à Lyon.
Cinquième arrondissement, donc derrière Fourvière, sur un plateau. Et en fait, je fais un match un dimanche, et on était mené 1-0. Pourquoi je raconte ça?
Si, non, allons-y.
Et donc, il reste une minute à jouer, il y a un corner, le gars de chez nous tire le corner et puis je me sens m'élever au-dessus des autres et je marque le but de la tête. Ça m'arrive très rarement, ça m'est peut-être jamais arrivé depuis. Et j'ai eu l'impression à ce moment-là de vivre le plus beau moment de ma vie.
Un frisson éternel, ouais. Dans un tout petit stade. Mais c'est ça aussi.
Oui, ouais, c'est exactement ça. Et je pense que tous, enfin, quand on a joué au foot, on a ce type de souvenir-là. Et c'est fatalement pas les plus beaux, mais presque les plus beaux.
En tout cas, merci beaucoup à vous trois d'être venus ce soir. Je précise que vous pouvez vous procurer chez Larousse, Stade mythique du foot, un livre signé Rémi Fière. Merci à vous trois d'être venus ce soir. Passez une excellente soirée.
Merci à vous.
Salut, c'était Synchro. Chanson signée Tame Impala. On continue en musique avec la victoire en chantant le rendez-vous de Pierre-Étienne Minanzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année. Au programme ce soir, une icône américaine. Bonsoir Pierre-Étienne.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors de qui allez-vous nous parler ce soir ?
Eh bien de Bruce Springsteen. À 71 ans, le boss vient de sortir un nouvel album, Letter to You. Alors ça fait bientôt un demi-siècle que ce charismatique chanteur originaire du New Jersey mélange du rock, de la country et du blues pour raconter le quotidien des laissés-pour-compte du rêve américain ou encore la vie simple des habitants des banlieues résidentielles aux États-Unis.
Et alors, quelle est la place du sport dans cette œuvre imposante ?
Elle est limitée, je dois dire, parce que... En fait, même si sa fille Jessica est une championne d'équitation, Springsteen ne s'intéresse pas du tout au sport.
Bon, on arrête ici la chronique du coup.
Non. Parce qu'en fait, les rares fois où il a parlé de compétition dans ses chansons, le résultat a été brillant. Je vais essayer de vous le prouver à travers trois morceaux. Le premier se nomme Glory Days. Il est issu du célèbre album Born in the USA, paru en 1984. Alors, Glory Days, c'est l'histoire d'un type qui se rappelle ses années de high school, c'est-à-dire ses années de lycée, quand il était un joueur de baseball prometteur. car beaucoup d'Américains sont nostalgiques de leur réussite sportive adolescente, comme le décrit une série télé exceptionnelle, Friday Night Lights.
J'adore cette série.
Ouais, consacrée à des lycéens membres d'une équipe de football américain qui sont des célébrités dans la petite ville où ils résident, au Texas. La chanson Glory Days pourrait être la bande-son idéale de cette série.
Très bien. Alors, quelle est la deuxième chanson de Springsteen dont vous voulez nous parler ce soir ?
Un titre de 2008 intitulé The Wrestler.
Have you ever seen a one-trick pony in the field so happy and free? If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. Then you've seen me. I come and stand at every door. And you've seen me.
The Wrestler, comme le film de Darren Aronofsky avec Mickey Rourke.
Exactement. La chanson qu'on vient d'entendre accompagnait le générique de fin de ce film consacré à une star du catch sur le déclin. Alors ce titre ne parle pas spécifiquement de catch et du folklore qu'on associe en France à cette discipline adorée aux États-Unis. Non, ce morceau évoque plutôt les souffrances que peuvent ressentir les catcheurs à l'issue de leur vrai-faux combat. Il est question de sang qui coule, d'os cassé, d'ecchymose. C'est une traduction musicale parfaite de ce que subit Mickey Rourke dans le film.
Et alors, quel est le dernier et troisième morceau que vous souhaitez mettre en avant ce soir ?
Wrecking Ball, un titre issu de l'album du même nom, sorti en 2012.
So if you got the guts, mister, if you got the balls, you think it's your time then. Step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball.
Et alors, qu'est-ce que ça signifie ce terme de wrecking ball?
Bon, ça désigne la grosse boule de démolition avec laquelle on fracasse des bâtiments. Mm-hmm. Cette chanson fait précisément référence à la boule qui a mis en pièces le Giant Stadium, une enceinte détruite en 2010 qui a longtemps accueilli les New York Giants, une franchise emblématique de football américain. La chanson Wrecking Ball évoque donc, à travers sa démolition, l'âme d'un stade et les champions qui ont été vénérés dans cette arène. Puisque, évidemment, le football américain est le sport qui est suivi avec le plus de passion aux États-Unis.
Alors au final, Pierre-Etienne, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces trois chansons ?
Eh bien, elles nous font découvrir des réalités qui n'ont pratiquement pas d'équivalent en France. L'importance accordée au sport dans les high schools, les séquelles physiques liées à la pratique du catch, ou encore l'obsession nationale pour le football américain. De sorte que, malgré sa méconnaissance de ces sujets, Springsteen, grâce à son talent de parolier, parvient à transcender la culture sportive américaine et à en dévoiler des dimensions qui lui sont spécifiques. Voilà peut-être une définition du génie, être capable de sublimer un sujet qu'on ne maîtrise pas.
Tiens donc, à méditer peut-être.
Salut et bonne soirée.
Salut Pierre-Etienne. Et voilà, cette neuvième émission de notre saison 6 a été mise en onde ce soir par H2M Henri, Marc Mutel, bien sûr. Merci Marco. Assisté ce soir à la technique de Ronan Mahé. Merci à lui. Merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre. Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les Scuds et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec le compte L'Œil du Tigre et sur franceinter.fr, bien sûr, pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec un des plus grands clubs de football du XXe siècle, détesté par les nazis car jugé trop cosmopolite, comprenez, trop juif. Le Bayern Munich est devenu depuis 50 ans la vitrine mondiale du football allemand. Vie et destin du Bayern Munich. Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.